le progrès technique, c'est des bonnes inventions, c'est ça permet à l'homme de mieux vivre et tout, mais c'est pas sans conséquence sur l'environnement. C'est souvent une source de pollution, et si tu désalinises l'eau, tu consommes d'autres ressources en plus. En utilisant le progrès technique pour des innovations comme ça, il y a une dégradation des ressources naturelles.
Mais tu penses que c'est mieux de plutôt désaliniser, enfin construire des entreprises pour dessaler l'eau, plutôt que tu préfères contribuer à ce que l'eau soit dessalée ou contribuer à des trucs nucléaires, des centrales nucléaires, parce que ça pollue, parce qu'il faut faire de l'électricité.
Mais là, on parle pas des mêmes choses.
Puis aujourd'hui,
Oui,
le progrès
mais...
technique pour produire 1 000 $ de richesse, nous avons besoin de 0,4 tonnes en équivalent pétrole contre 1,2 tonnes au 19e siècle, soit 3 fois moins d'énergie. Donc l'intensité énergétique a beaucoup diminué grâce à ce progrès technique et l'environnement peut être préservé.
Alors, est-ce que tu connais le paradoxe de Javon?
Javon.
Tu vas m'expliquer.
Non. Donc c'est l'effet rebond en fait. Et tu as dit que l'intensité énergétique que l'on utilisait a baissé par rapport à avant.
Oui, un petit dernier siècle.
Mais
Deux, trois fois.
du coup avec l'effet rebond, on améliore la productivité et au lieu de diminuer la consommation des matières premières et d'énergie, en fait on va en consommer beaucoup plus parce que ça va coûter moins cher à produire. Les gens vont plus consommer et du coup on va consommer beaucoup plus de matières premières et d'énergie fossile, souvent des énergies qui ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine. Et donc voilà, je peux illustrer ça avec un exemple de l'informatique. L'informatique qui a été inventée pour but de réduire la consommation de papier. Et au fur et à mesure des années, les ordinateurs, tout ça, c'est devenu beaucoup moins cher. Et du coup, les gens imprimaient beaucoup plus au final que ce qui était produit avant l'arrivée de l'informatique.
Oui, mais maintenant il y a du papier recyclé qui se fait.
Mais le papier recyclé, c'est pas pour tous les papiers.
Oui, mais c'est pour imprimer. Là, tu parles de l'imprimante et de l'informatique, mais maintenant le.
Ok, alors est-ce que toi, quand tu imprimes des trucs à vie scolaire, tu as du papier recyclé?
Ben, ça, c'est à la vie scolaire de s'en occuper, c'est pas à moi.
Oui, mais en fait, ces technologies, finalement, elles font que retarder les risques majeurs parce que bah, finalement, c'est pareil pour les espèces animales. On consomme beaucoup et on ne laisse pas le temps au capital naturel de se reconstituer. Il y a 2 700 espèces qui sont en voie d'extinction actuellement. Donc finalement, est-ce que le progrès technique et le développement durable peut y faire quelque chose parce que ce chiffre, il augmente de plus en plus finalement.
Oui, mais vous savez que là, si on veut continuer à vivre, il faudrait 12 planètes. Si on voulait, donc, si vous voulez qu'on fasse une décroissance, il faudrait que les pays comme les États-Unis, la Chine, aient une décroissance de au moins 5%, ce qui est énorme. Alors que dès qu'il y a une décroissance de au moins 1%, voire 0,5%, il y a un chaos social, c'est-à-dire que, ben, y a des crises, il y a du chômage et c'est la panique. Donc, je vois pas comment on pourrait faire une décroissance. Alors que s'il n'y a que 1%, même 0,5%, il y a déjà un chaos social. Et seuls les pays où c'est qu'il y a un dictateur peuvent faire cette décroissance dont vous parliez. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un génocide des pauvres.
Oui, mais finalement, c'est aussi valable pour le développement durable parce que c'est dit dans le document 7 que plus on attend, plus le choc il est rude, plus il y a des chances d'avoir un régime totalitaire ou de la barbarie dans une société. Donc, parce que finalement, peut-être que tout risque de s'effondrer parce qu'un développement durable, ça met du temps à s'installer et peut-être que c'est déjà trop tard parce qu'on a déjà remis en cause 200 ans de sciences économiques. Donc finalement, si on reste comme ça, ben, tout risque de s'écrouler. Donc mieux vaut prôner la décroissance maintenant pour essayer d'arranger les choses.
Aujourd'hui, avec la science, on peut, elle peut nous permettre de continuer notre croissance en créant par exemple des espèces chimiques de synthèse. Donc nous n'avons plus besoin de puiser dans nos ressources naturelles et nous créons juste de nouvelles espèces chimiques qui ne détruisent pas l'environnement, comme par exemple les éponges de synthèse ou les arômes naturels.
Et de plus, tu parlais de l'épuisement des ressources, mais on peut parler de l'économie circulaire qui se fait de plus en plus pour qu'un déchet ne soit pas jeté, mais justement recyclé pour ne pas épuiser toutes les ressources. Tu parlais.
Oui, mais ça c'est vrai, mais est-ce que recycler et produire ces choses, ça ne polluerait pas? Parce que finalement, on sait que toutes ces usines, etc., pour recycler, ça peut aussi très bien polluer, créer du CO2. Et est-ce qu'on peut se demander aussi si le capital naturel, il est vraiment substituable? Parce que on a vu dans le document en classe que finalement, pour développer le capital humain, il fallait puiser dans les ressources du capital naturel. Donc c'est peut-être pas rentable.
Oui, mais pour la pollution, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont mises en place. Donc tu parlais de la pollution, donc j'imagine que tu parles par exemple des voitures ou quoi. Donc déjà au centre de Montpellier, les voitures elles circulent presque plus. À Bordeaux, il y a un tramway que tu peux faire tout Bordeaux en tramway. Maintenant, il y a des étiquettes sur les voitures pour pas qu'elles soient en ville, pour pas qu'elles polluent. Donc il y a déjà des choses qui se mettent en place pour la pollution.
Avec le développement aussi des voitures électriques qui polluent moins et qui sont très utiles pour l'environnement.
Alors les voitures électriques, on a l'impression que ça pollue moins, mais la production d'une voiture électrique, au final, on pollue plus qu'en produisant une voiture au gasoil. Et du coup, tu parlais des innovations comme le tramway, tout ça. Mais là, on arrive à un point dans la vie où, en fait, on a un point de non-retour. C'est le développement durable, il est insuffisant maintenant pour retrouver des écosystèmes normaux et ne pas épuiser toutes les énergies non renouvelables. Et du coup, la seule solution, c'est pas de essayer de trouver des nouvelles inventions qui vont permettre de diminuer, mais il faut faire marche arrière.
Non, mais en fait, c'est surtout que ce que vous disiez par rapport aux voitures électriques, c'est que quand même le développement durable, ça, c'est beaucoup un effet de mode actuellement. Et ça peut être profitable au niveau des entreprises qui peuvent manipuler les populations en faisant du greenwashing, par exemple. Donc on a l'impression que ça peut être plus écologique, mais pas forcément. Et tout ça, c'est alimenté par les publicités. Donc si à la décroissance, il y a moins de manipulation des sociétés et moins de greenwashing qui nous donne l'impression que c'est plus écologique, mais finalement, non, pas forcément.
Et donc pour vous, il vaut mieux se déplacer en voiture à gasoil qu'en voiture électrique?
En sachant que maintenant, il y a des villes... Je peux finir?
Oui, fini.
En sachant que maintenant, il y a des villes où c'est que c'est plus utile de prendre un vélo ou même à pied. Tu vas plus vite si tu es à vélo ou à pied que si tu prends une voiture ou même des transports en commun. Ouais. C'est en train de se mettre en marche.
Donc, du coup, ça sert à rien d'inventer les voitures électriques.
Fin du débat. Fin du premier round.
Bon, du coup, pour le développement durable, on a vu qu'il y a de plus en plus d'emplois éco-actifs qui sont de plus en plus nombreux. On le voit avec le document 25, si vous l'avez. On a ici un schéma, un graphique, avec en vert les emplois dans l'éco-activité qui sont passés en 1997 de 100, donc du coup ils ont augmenté de 66%, alors que les emplois normaux, eux, ont augmenté de seulement 12% en 2011.
Et qu'est-ce que tu entends par là, ces éco-activités?
C'est des emplois qui préservent la nature.
D'accord.
Tout en ayant une croissance
soutenable.
D'accord. Mais du coup, donc, le développement durable préconise aussi l'avancée dans les progrès techniques.
Ouais.
D'accord. Ouais. Donc, par exemple, aussi le fait qu'il y a de plus en plus de robotique dans les usines, etc. Et donc, moins en moins de personnel. Donc, ouais. Au final, comment dire, on va remplacer des gens qui travaillent voilà, par des robots pour au final faire des activités qui vont, comment dire, je sais plus que...
Je sais pas, pour des activités qui pourraient être réalisées par des hommes, simplement, et qui sont remplacées par des robots.
Et puis au final aussi, ces gens, du coup, dans cette éco-activité, vont peut-être utiliser des pesticides ou des machines agricoles qui vont beaucoup polluer.
Non, comme c'est éco-activité, c'est pour la nature, du coup, ils vont utiliser des... Ils vont utiliser des choses naturelles, ils vont pas utiliser des pesticides ni...
Mais ils peuvent utiliser de l'engrais, par exemple.
Oui, mais l'engrais est naturel.
D'accord.
Ensuite, je voulais revenir à ce qu'ont dit nos camarades pour les usines de désalinisation. Est-ce que vous avez pensé au prix que ça pourrait coûter et aux dépenses d'énergie que ça entraîne?
Alors, le coût de désaliniser l'eau, il est nécessaire pour qu'on puisse continuer à vivre. Mais, et le prix, on est obligé de le mettre si on veut continuer à boire de l'eau. Mais est-ce que la décroissance a-t-elle une autre solution?
Oui, mais tous les pays ne peuvent pas se permettre de se payer des usines de désalinisation. Et de plus, ça a aussi une répercussion sur les milieux marins de désaliniser l'eau.
C'est pour ça qu'il faut que les pays riches s'entraident avec les pays pauvres pour que le monde puisse profiter de toutes les ressources.
Mais après, quand même, dessaler l'eau, ça altère par exemple le goût des aliments. Par exemple, tu cultives des fraises, tu utilises de l'eau qui vient de ces usines, elle n'aura pas le même goût que les fraises naturelles, on va dire. Donc après aussi, donc, dessaler l'eau, ça amène aussi à ne pas avoir le vrai goût des aliments.
Donc, au final, la décroissance, c'est juste changer le goût de l'eau.
Changer non, le non, goût justement, des fraises. Vu que nous, on est contre utiliser ces usines-là.
Non, mais comment l'eau peut changer de goût?
Donc, mis à part la désalinisation, est-ce que la décroissance est une autre solution pour donner de l'eau à toute la planète? Sinon, bah, non. Donc, voilà.
Bah, par exemple, on pourrait déjà... mieux conserver l'eau. Hein. On sait que par exemple, des endroits sont très pollués, les nappes phréatiques par exemple sont très polluées à cause de l'utilisation d'engrais, de pesticides, etc. Et on pourrait mettre des moyens en place. Par exemple, l'argent utilisé pour construire ces usines de désalinisation pourrait être utilisé pour construire d'autres moyens comme, par exemple, payer la dépollution des rivières ou ce genre de choses.
Mais le fait de créer d'autres moyens. Prendrait plus de temps que dessaler l'eau.
Ouais,
du coup,
aussi,
ça serait trop long.
Il y a aussi le fait qu'on draine l'eau pour l'irrigation, pour pouvoir produire. Est-ce que vous avez pensé à ça? Donc, on peut aussi éviter de drainer toute cette eau pour.
À drainer pourquoi?
Pour l'irrigation, pour faire pousser des plantes.
Par rapport à la mer Aral,
ouais.
Moi, je pense que la désalinisation aurait pu. Préserver cette mer. Au lieu de prendre l'eau de cette mer, on aurait pu la prendre autre part pour garder l'eau en place.
Après aussi on a Bon, je vous propose qu'on change de sujet. Il y en a marre là, de celui-là quand même. On ras le bord. Par exemple, aussi, on a la croissance qui pousse les gens à consommer plus que nécessaire. Hein. Par exemple, on sait tous que l'offre varie en fonction de la demande. Mais avec du coup la croissance et l'envie pour les populations riches de toujours avoir le mieux, le meilleur. On se demande si c'est pas en fait la demande qui existe parce que il y a l'offre. Hein, on peut le constater par exemple avec les ventes de voitures en France qui a augmenté de 27% entre 1997 et 2018. Alors que par exemple on sait que c'est pas pour des voitures plus écologiques puisque par exemple, le nombre de véhicules électriques en circulation aujourd'hui est assez minime.
Oui, mais quand on est comme ici en Cerdagne, on est obligé d'avoir une voiture. Sinon, on ne peut rien faire.
Oui, mais en France, 80% de la population habite en ville.
Oui, mais nous, on habite en Cerdagne.
Oui, non, mais si on prend, en Cerdagne. On ne peut pas que se baser sur nous.
Voilà. Oui, mais en ville, ils pourraient utiliser des énergies alternatives.
C'est pour ça qu'en ville, on se dirige plutôt vers les transports en commun et les vélos et les trottinettes. Et
mais etc. Dans ce cas, pourquoi le nombre de ventes de véhicules continue d'augmenter si on pousse les gens à prendre les transports en commun?
Donc, quelle est la solution de la décroissance?
La solution, justement, ça serait d'arrêter de vendre du rêve aux gens en les incitant à acheter toujours la meilleure voiture et juste d'avoir une voiture qui leur sert à rouler. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui changent de voiture alors que la leur fonctionne encore, elle remplit sa fonction, elle arrive encore à rouler, il n'y a pas de problème majeur.
Oui, mais par rapport aux étiquettes, il faut changer les voitures au bout d'une certaine année, on ne peut plus les utiliser.
Mais là aussi, ces étiquettes, elles ont des limites. Par exemple, on sait très bien qu'entre un 4x4 acheté l'année dernière et une 2 chevaux, la 2 chevaux, elle polluera moins, mais elle aura une étiquette moins bonne.
Pas sûr.
Donc, au niveau des ressources naturelles, on s'aperçoit que les ressources primaires ne sont pas si épuisées que ça, et donc le développement durable peut continuer, a le temps de se mettre en place plus rapidement qu'on ne pense.
Non, parce que c'est justement les pays riches qui exploitent entre guillemets les pays pauvres pour utiliser ces éléments-là, par exemple dans les batteries de nos téléphones ou dans tout ce qui est matière rare. Par exemple, même pour les centrales nucléaires, c'est exploité depuis des pays pauvres. Et du coup, ce qui empêche leur avancée.
Du coup, il faudrait juste un changement des mentalités ou un respect, création de certaines lois pour rééquilibrer tout ça.
Non, il faudrait qu'on arrête la surconsommation. Par exemple, nos téléphones, souvent on les change tous les 2-3 ans parce qu'il y a l'obsolescence programmée, là aussi, qui incite à consommer, alors qu'ils fonctionnent encore. Mais du coup, ça pousse du coup à racheter un nouveau téléphone avec une nouvelle batterie, donc à consommer des matières rares qui auraient pu être utilisées ailleurs ou justement qui auraient pu permettre aux pays pauvres, qui auraient pu leur servir à le vendre à un meilleur prix, par exemple.
Moi, je voulais aussi revenir sur... Tu parlais des ressources naturelles et tout, donc on peut aussi parler de la pêche qui est surexploitée et les fonds marins, donc qui vont sûrement disparaître en 2050 la plupart des espèces marines. Ça dérègle l'écosystème notamment. Donc il faudrait intervenir assez tôt et ça contribuerait à la bonne santé et la stabilité des océans. Donc,
le développement durable proposerait plus de la pêche en élevage que de la pêche en océan et aussi mettre en place des quotas de pêche et, au niveau international et ne pas autoriser la pêche massive dans les eaux internationales.
Mais par exemple, l'élevage donc de poissons, par exemple, ça réduit la biodiversité de l'espèce, par exemple. Et du coup, ça l'affaiblit plus, puisque, comme on l'a vu, ils sont nourris avec, du coup, des aliments qu'ils ne consomment pas normalement et qui sont aussi, par exemple, il y a, par exemple, des antibiotiques dedans ou ce genre de choses.
Oui, mais si c'est bio, si on arrive à avoir un élevage bio, on pourrait...
C'est pas bio s'ils utilisent des antibiotiques.
Mais non, mais si moi je parle bio, oui. Si on fait un élevage bio, il n'y aura pas tous ces problèmes-là.
Pour l'instant, c'est pas le cas.
Et moi, je propose un élevage bio. Sur la suite du développement durable.
Fin du deuxième round. C'est bon.
Alors, partisante de la décroissance, je voudrais affirmer quelque chose. Tout d'abord, la croissance actuelle est insoutenable d'un point de vue humain déjà et écologique. Donc, je pense que vous êtes au courant, mais je le redis quand même, c'est par rapport au paradoxe d'Easterlin, ou dit autrement, le paradoxe de l'abondance. Et c'est le fait que augmenter la richesse, et donc augmenter la richesse, c'est égal à augmenter le salaire, le revenu des individus, ça ne permet pas forcément l'augmentation du bien-être également. Donc la croissance n'engendre pas forcément une sensation de bonheur en plus, une sensation de motivation. Et là-dessus, on pourrait croire, hein, par exemple, en prenant une personne qui est tout d'abord au SMIC et qui a une augmentation au départ, il va être content, c'est normal. Mais je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, le tapis roulant hédonique, c'est-à-dire qu'à force de recevoir de la richesse, il va en quelque sorte s'y habituer, et le surplus de bonheur qu'il va prendre va disparaître au fur et à mesure. Et de plus, ce paradoxe repose sur un deuxième point, c'est le fait qu'on veut avoir plus de richesse, et c'est également en se comparant aux autres. Donc c'est quelque chose en quelque sorte de sociologique, c'est qu'on veut toujours avoir plus que le voisin, ou également, on veut se sentir dans un sentiment d'interaction, on veut être à égalité avec les autres. Et donc là-dedans, ça crée forcément une surconsommation, parce qu'on veut avoir plus que les autres.
Alors, déjà pour contredire ton argument, tu dis qu'en augmentant les revenus, on va moins se soucier au bonheur parce que on va toujours vouloir plus, c'est ça que tu dis. Sauf que en tant que partisan du développement durable et d'une croissance soutenable, on a vu que si on augmente les revenus globalement, la population elle est plus affectée, et comme on part du principe qu'elle est plus affectée par le développement durable et par les causes pour l'environnement, grâce à en augmentant les revenus, elle peut plus agir pour l'environnement. Mais je pense que vous êtes un peu égaré du sujet, parce que le terme du débat, c'est plutôt de savoir si le capital naturel il est substituable à cause des autres formes de capitaux. Et là, en tant que partisan du développement durable et d'une croissance soutenable, il est évident qu'on peut substituer le capital naturel. Déjà, d'une première part, avec le capital, grâce au capital physique, au capital humain, grâce au capital humain, des individus qui sont mieux formés, qui sont plus sensibles à l'écologie, et en plus, avec une augmentation de tes revenus, ils sont plus faciles d'agir pour l'écologie. Ensuite, on a vu qu'avec le capital institutionnel, on pouvait faire de nouvelles lois, créer de nouvelles lois qui appliqueraient et qui feraient en sorte que les politiques soient plus susceptibles de changer leur comportement. Et donc du coup, il y aurait un impact économique d'abord et social, parce qu'il y aurait une prise de conscience. Et ajouté en plus, avec ton augmentation des revenus, on pourrait encore plus agir pour l'environnement et le capital technologique avec le progrès technique.
Alors moi déjà, j'aimerais te contredire, parce que le terme du débat, ça reste de savoir si quel est le mieux entre la décroissance et le développement durable, et non pas de savoir si tous les capitaux sont substituables. Et pour revenir à ton point en disant que la richesse peut ne pas être critique écologiquement, on a quand même vu que l'empreinte écologique était critique au niveau des pays qui étaient déjà développés, alors que les pays en développement étaient en dessous de ce seuil de l'empreinte écologique.
Il y a 2 hectares.
Voilà. Donc finalement...
Par exemple, pour l'Inde, elle est actuellement à 0,08 hectares par habitant.
Pour revenir par exemple sur l'Inde, ils ont peut-être une faible empreinte écologique, mais c'est un pays où les revenus sont très faibles, les gens ne sont pas heureux pour autant. Donc, pour en revenir au bien-être, la richesse y participe quand même fortement.
Et au niveau économique, ça fait 50 ans que l'Inde ne fait que se développer, c'est un pays émergent. Et c'est grâce au domaine pharmaceutique notamment, et tout ce qui est pour l'environnement, qu'il a réussi à pouvoir accroître ses revenus.
Alors oui, après ce qui est bien dans le développement durable, c'est que ça prend en compte le développement humain, certes, mais après on sait tous qu'on est dans une société où l'homme aime le confort et a du mal à s'en séparer. C'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de pollution et que l'environnement est dégradé. Donc il faudrait réussir à corriger ça par la décroissance, parce que finalement, Clément l'a dit avec ce paradoxe d'Easterlin, ça fait que de plus en plus on a envie de confort, et les pays qui sont en développement vont vouloir se rattraper et avoir le confort que nous on a pu avoir, et ça le développement durable ne pourra pas y faire grand chose.
Et pour parler du développement, on peut parler justement du progrès technique qui, vous, vous dites qu'il est bénéfique pour la croissance, mais on peut dire aussi qu'il y a des points négatifs là-dessus, sur l'environnement. Puisqu'on sait que, par exemple, progrès technique, on peut parler de l'aquaculture. Là, on sait que pour produire cette aquaculture, il faut trouver des endroits, etc. Et là-dedans, on va devoir miser sur les ressources qu'on va, du coup, encore plus atténuer.
Donc, pour arrêter de manger du poisson.
Non, mais moins en consommer, oui, comme les produits animaux, finalement.
Les produits
comme les animaux.
Pour parler de notre produit, par exemple, le pétrole, il y a 20 ans, on nous disait qu'il n'y en aura plus, qu'il serait possible d'en trouver, et que son prix augmentera, et voilà, alors qu'aujourd'hui, le prix du pétrole n'a pratiquement pas bougé, et nous trouvons toujours du pétrole grâce aux progrès techniques, et nous en trouverons sûrement longtemps, et quand nous en aurons plus, nous aurons normalement trouvé d'autres alternatives à ce pétrole.
Et pour te répondre, tu disais en gros, pour toi, tu me corriges si je dis n'importe quoi, que c'est pour toi le développement durable, ça serait qu'un outil marketing qui servirait à surconsommer, c'est ça?
C'est pas forcément qu'un produit marketing, s'il faut, ça peut être prouvé que c'est mieux. Mais oui, c'est utilisé par certaines entreprises. Par exemple, les entreprises sont contrôlées normalement par la RSE, mais qui visent à améliorer écologiquement et socialement ces entreprises. Mais est-ce que c'est vérifié? Par exemple, tous les accords qui ont été mis en place, c'est le protocole les accords de Kyoto, etc., la convention de Rio, c'est des choses qui ont été mises en place pour améliorer tout ça. Mais pareil, est-ce que c'est contrôlé? Et non, c'est prouvé que les pays n'adhèrent pas.
Ça n'a pas été tout le monde.
Voilà. Ça n'a pas été.
Sauf que quand même, avec l'accord de Paris, pour l'accord de Kyoto, il y a quand même des pays, des gros pays, des pays comme la Chine, qui sont favorables à avoir de nouveaux protocoles. Et d'ailleurs, certes, tu dis que c'est un outil marketing pour surconsommer ou quoi que ce soit, mais on peut voir, par exemple, d'après le Conseil économique, social et environnemental qui s'occupe de recenser chaque année des nouvelles associations, elle nous montre qu'en 2010, il y a plus de 300 000 nouvelles associations qui existent en France pour lutter en faveur de l'environnement. Alors, je t'en cite l'une d'elles. L'une d'elles, c'est France Nature Environnement. Elle est au service de la protection de la nature et elle compte plus de 3500 associations sous sa tutelle. Pourtant, ce sont que des associations à 95% qui sont à but non lucratif et il n'y a que des bénévoles dedans. Pourtant, elles ne se font aucun argent dessus et elles luttent uniquement pour le développement durable et pour l'environnement.
Ça, c'est très bien. Malheureusement, là, on est dans une société qui compte beaucoup sur l'argent et le bénévolat, c'est génial, mais ça reste quand même rare. Et on est quand même de plus en plus dans une situation critique parce que ces aménagements sont très bien, mais ils mettent du temps à s'installer. Et là, on peut se demander si c'est pas déjà trop tard. Par exemple, 70% des catastrophes naturelles qui arrivent actuellement sont liées au climat. Et il y en a près de deux fois plus qu'il y a 9 ans. Donc ça, c'est quand même des chiffres qui marquent. Et que le développement durable ne fera que retarder. Donc c'est à partir de ces chiffres qu'on peut se dire que la décroissance est souhaitable si on ne veut pas que ça augmente encore de plus en plus et qu'il y ait de plus en plus de morts.
Et en plus de ça, on peut dire que bon, c'est bien de parler d'associations, tout ça, mais ça manque de crédibilité parce qu'on voit un peu les discours qui augmentent, qui s'intensifient et en résultat, on ne voit pas forcément de choses qui changent. Tout le temps, donc
Alors, crédible. Déjà, juste pour répondre, bien sûr que c'est quelque chose de durable parce que depuis 2010, donc c'est les chiffres qui sont recensés jusqu'à cette année, il y a une augmentation de 27% depuis les 20 dernières années d'associations qui augmentent chaque année en France.
Et les mentalités changent aussi par rapport aux accords de Paris, il y a une certaine prise de conscience sur
Oui, les mentalités changent, ça je suis d'accord, mais surtout dans les pays développés, mais est-ce que c'est le cas dans les pays en développement ?
Allez, fin du troisième round et fin du premier débat. À vous.
Alors, le développement durable, il n'est pas super crédible parce qu'il prône la croissance. Sauf que la croissance, elle met en avant la consommation, tout ça. Sauf qu'on voit que, par contre, il y a les ressources naturelles qui sont en train de s'épuiser. Donc, il y a des ressources naturelles qui sont carrément pas renouvelables. Donc qui s'épuisent plutôt rapidement, et il y a des ressources naturelles renouvelables, c'est les ressources biologiques, et celles-là elles peuvent se renouveler, mais alors il faut leur laisser le temps. On a vu cette année que notre quota, enfin on a calculé le temps qu'il fallait pour que ces ressources se renouvellent. Et on devait utiliser un certain nombre de ressources pendant un an. Et ce quota a été utilisé. On a utilisé toutes ces ressources-là le 29 juillet cette année.
Mais on
dépense beaucoup trop de ressources naturelles, alors qu'il faudrait les préserver.
Donc là, tu as parlé des énergies renouvelables. Donc ça fait partie du progrès technique, qui est une des solutions pour rendre la croissance soutenable. Donc le progrès technique permet de remplacer le capital technologique par le capital naturel, et donc d'utiliser des énergies comme le vent, le soleil pour créer de l'énergie. Et le vent et le soleil, on en aura toujours, donc on pourra continuer la croissance et augmenter la production tout en respectant la nature.
Donc nous qui sommes partisans de la décroissance, on est d'accord pour les éoliennes, tout ça, pour pouvoir continuer à produire de l'énergie dont on a besoin, forcément. Mais on a parlé du paradoxe de Javons. Donc c'est le progrès, tout progrès technique améliore la production. Donc la production devient moins coûteuse, il y a besoin de moins de matériel pour plus de biens. Donc normalement, si on devrait produire moins, voilà. Donc au lieu de diminuer la production, par contre, cela produit à beaucoup plus consommer, et le prix baisse et tout le monde peut se le procurer. Donc un téléphone, on prend l'exemple d'un téléphone, au début c'était un produit de luxe, très peu de personnes pouvaient s'en procurer. Avec le progrès technique, ça devient moins coûteux, avec moins de matériel pour les entreprises, tout le monde en veut un, et même tout le monde le change souvent. Donc c'est un exemple comme quoi le progrès technique n'est pas soutenable.
La décroissance, ça prône de remplacer le capital naturel, ou en tout cas de servir d'autres capitaux afin de pallier au manque de capital naturel. Et par exemple, il y a la démarche négawatt en 3 points, ça voudrait dire utiliser la sobriété énergétique, c'est-à-dire réduire les gaspillages, éteindre la lumière quand tu sors d'une pièce. Il y a aussi augmenter l'efficacité énergétique. Par exemple, si tu as une machine dans une usine qui pollue beaucoup parce qu'elle est un peu vieille, tu la remplaces par une nouvelle machine. Et il y a aussi les énergies renouvelables qui, elles, si elles sont bien réparties, elles sont censées être inépuisables, forcément, si on les utilise correctement. Et donc, ça va pas juste. Enfin, si on fait ça, normalement, on est censé pouvoir continuer de croître.
Ouais. Donc, je reprends ton deuxième argument. Ouais. Donc, les machines qu'il faut changer parce qu'elles deviennent obsolètes. Effectivement, mais elles sont beaucoup plus changées en ce moment car il y a une obsolescence programmée qui vient des grandes entreprises. Qui, elle, comme le disent certaines personnes, préfère avoir plus d'argent, elle, tant qu'à. Même si plus tard, il n'y aura plus rien pour personne, et pouvoir vendre sur le moment même, et gagner de l'argent, et vivre leur vie du jour même très bien.
Je rebondis, l'obsolescence programmée, ça concerne un peu toutes les machines électroniques, mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire une consommation alternative. Ou par exemple, juste pour une perceuse, c'est pas quelque chose dont normalement tu as besoin tous les jours, c'est quelque chose que tu peux prêter. Il y a énormément d'applications maintenant où tu as juste à dire que tu as une perceuse, une personne va venir la chercher puis te la ramener. C'est pareil avec les voitures, c'est pareil avec tous les ustensiles dont tu ne sers pas tous les jours.
Mais ça, c'est quand même compliqué à mettre en place. Moi, je connais très très peu de gens qui font ça. Je ne sais pas si toi tu le fais. C'est peut-être une solution, mais personne ne le fait. Donc,
Forcément, le développement durable, ça prône le fait qu'il faut qu'on change de mentalité, parce qu'actuellement, on consomme trop. Et enfin, on peut toujours consommer et on peut toujours progresser, mais il faut juste consommer et consommer différemment. Et si on fait ça, on peut toujours autant consommer, mais juste d'une autre manière. Et donc, c'est juste, enfin, tu dis que ça ne se fait pas beaucoup, mais c'est juste qu'il faut changer les mentalités. Ce n'est pas un problème technique, ça peut se faire techniquement.
On ne demande pas de plus consommer, on demande juste de réduire les consommations et de les... Donc, je vais prendre l'exemple de tomates, par exemple. Si en Espagne, ils vont produire une tonne de tomates pour ensuite en revendre à 5 pays différents, on préférerait, nous, partisans de la décroissance, que chaque pays produise ses 200 kg de tomates et qu'il n'y ait ensuite pas besoin de les transporter par bateau, par avion ou par camion.
Mais le problème de la décroissance depuis qu'on a eu la révolution industrielle, il y a toujours eu du progrès technique, on a toujours progressé, c'est jamais arrivé. En fait, on n'a jamais connu pour l'instant de décroissance, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est dur à mettre en place parce qu'on ne connaît pas, en fait, on ne l'a jamais eu. Et ils demanderaient aux pays du nord de l'Équateur de diminuer d'au moins 1% par an, alors que les gens, déjà, si la croissance juste, elle ralentit, le fait qu'elle baisse, ils ne seront certainement pas d'accord et ça crée enfin des problèmes éthiques. Vous demandez aux gens de consommer moins, il y a des gens qui vont vous répondre, oui, mais moi j'ai envie de prendre l'avion, vous ne pouvez pas m'empêcher, c'est dans mes droits.
Oui, mais on demande surtout aux pays qui consomment le plus, qui ont la plus grosse empreinte carbone par exemple, de moins se consommer, et dans un deuxième temps les pays pauvres, enfin en développement.
Effectivement, la décroissance, on a vu qu'on n'a jamais trop réussi à mettre en place, alors que le développement durable, effectivement, petit à petit, on arrive à s'en rapprocher. Malheureusement, comme on le voit, ça continue à aller de pire en pire.
Il y a un phénomène qui est que plus les citoyens s'enrichissent, plus ils deviennent soucieux de l'environnement. Et par exemple, les entreprises, elles sont forcées d'être plus responsables parce qu'il y a une pression des consommateurs qui veulent des produits qui sont plus écologiques. Par exemple, la densité énergétique des pays de l'OCDE, c'est-à-dire l'Organisation de coopération et de développement économique, ça a diminué de 40% depuis 1980. Je prends un petit exemple à l'échelle de la France. Il y a une formation qui est faite aux jeunes, comme à Périgny, en Charente-Maritime, en 2017, ils ont placé 2200 arbres pour 100 élèves. Et c'est pour protéger un captage d'eau, l'agence France 3. Et du coup, enfin, c'est aussi, on considère qu'on va prendre des ressources, par exemple pour l'éducation, mais qu'on les rend à échelle équivalente ou encore plus, parce qu'actuellement, enfin, on sait par exemple que l'Amazonie est déforestée. Donc si on produit deux fois, enfin, si on plante deux fois plus d'arbres et qu'on élève les consciences, via l'éducation notamment, on peut peut-être continuer de croître.
Donc, oui, effectivement, tu as même pu citer Ecosia qui est au niveau mondial. Mais il y a aussi le paradoxe d'Einsterlin. Donc lui, je vais vous prendre un exemple directement plutôt que de l'expliquer. On va prendre trois personnes. Donc une personne qui touche du SMIC, une personne qui touche un peu plus du SMIC qui lui permet d'avoir une vie assez convenable, et une personne riche. La personne qui a un peu moins du SMIC, effectivement, elle ne va pas pouvoir choisir du label rouge, du bio, etc. et pourra pas trop se faire attention à la planète. Celle qui, je pense, qui est la plupart dans notre... qui sont comme nous dans la plupart de la classe, on gagne suffisamment d'argent pour pouvoir faire attention à peu près à ce qu'on prend. Manger bio, c'est mieux pour le sport et c'est mieux pour la planète, donc on va essayer de le faire, etc. Mais la personne qui est très riche, elle va vouloir juste utiliser son argent pour pouvoir augmenter son bien-être, et elle va finalement plus trop s'intéresser à la décroissance, à l'écologie. Les derniers chiffres qui sont sortis, 5% de la population ont autant de richesses que les 95%. Donc c'est vraiment cette partie-là qui ne va pas.
Donc là, c'est que 5% qui polluent et qui consomment trop, il y a 95%, ils peuvent un peu plus se soucier de l'environnement et de ce qu'ils consomment. Donc ça concerne une très petite partie de la population.
Tu dis que les gens qui sont riches ne se soucient que de leur bonheur. Je prends l'exemple de Leonardo DiCaprio, tu connais, mais il a reversé, je crois, 1 million, voire plus, quand il y a eu l'incendie en Amazonie. Donc, enfin, c'est pas juste de la science-fiction que les gens qui ont de l'argent peuvent aider, et forcément deviennent plus soucieux, parce qu'une fois qu'on a le bien-être, on s'occupe un peu de ce qui se passe autour, forcément. Je suis bien d'accord que ceux qui sont pauvres n'ont pas que ça à faire d'acheter des produits bio.
C'est sûr, mais après, dans une vie de développement durable, on peut, il y a certains moments où on voit qu'en fait, les trois points social, économique et écologique sont pas du tout, enfin, les trois sont pas alliés. Il y a des personnes qui se prônent en tant qu'acteurs du développement durable, comme Ségolène Royal, mais on voit qu'elle a peut-être des discours comme quoi il faut, mais en attendant, elle se déplace en jet avec ses propres voitures, et en fait, ce qu'elle dit, c'est pas du tout crédible. Et on a aussi tous les accords dans les COP, par exemple la COP 23, tout ça, où on dit que les pays doivent moins réduire leur empreinte carbone, moins polluer, tout ça, mais en attendant, très peu de pays ont pris l'engagement de le faire. Et en plus, ceux qui l'ont pris, c'est pas vérifié qu'ils le font. Donc concrètement.
Justement, enfin, il n'y a aucune limitation, enfin, ils ne sont pas vérifiés, ils ne sont pas contrôlés, mais il faut faire en sorte qu'ils le soient et que ce soit obligatoire. Il faut que ce soit des lois, comme ça a été la loi pour l'empreinte carbone, que vous ne pouvez que polluer qu'à un certain moment, sinon vous devez acheter des trucs aux autres pays. Mais là, il faudrait que ce soit exactement le même processus. Si jamais on pollue trop, il faut que ou on paye des amendes ou alors qu'il enfin, faut des lois. Quoi, tout
simplement, oui, mais ça, c'est pas crédible.
Fin du premier round.
Alors, nous, en tant que partisans du développement durable, on doit, nous, le monde et nous-mêmes, on doit changer absolument de mode de fonctionnement, de vision de l'économie et de tout ce qui gravite autour. Et c'est pas, pour nous, c'est pas, la solution, c'est pas la décroissance, mais c'est le futur, c'est la croissance verte et tous les éléments qui vont graviter autour, comme favoriser les éco-quartiers, comme en Chine, qui a pour projet de faire un énorme éco-quartier de Dantong. Et en Allemagne, à Fribourg, le quartier Vauban déjà construit.
D'accord, ok. Donc là, tu parles de la ville de Dongtan. La date du document, en fait, elle a été publiée en 2005. Et dès la première phrase, on parle de « on est en 2010, on est à Dongtan ». Voilà. Donc en fait, il se projette, l'écrivain, il se projette. Et du coup, est-ce que tu sais comment elle a fini la ville ?
Non, c'est un projet.
Ouais, non, c'est plus un projet.
C'est peut-être que... Rien de tout ça s'est fait, mais ce n'était qu'un projet au départ, et c'est quand même une alternative qui reste possible et qui serait une solution pour l'avenir. Alors même si en Chine, qui est pas le pays le plus écologique entre nous, donc où les chances que le projet aboutisse étaient les plus grandes. Mais il y a des chances que ça se produise, enfin qu'on puisse aboutir ce projet ailleurs.
Juste termine, en fait le projet il a été abandonné en 2007, maintenant c'est juste devenu une zone où il y a des ornithorynques, c'est tout.
Voilà. Peut-être ce lieu est dans cet état, mais pourquoi pas penser à ça à l'avenir.
Ailleurs. Faire ailleurs.
Ailleurs, oui.
Ouais, mais du coup, où ? Parce que est-ce que tu crois qu'à New York c'est possible de faire ça ?
New York est une ville qui existe déjà, c'est compliqué de... transformer une ville complètement.
Et tu veux transformer quoi du coup ? Tu veux créer des nouvelles villes ? Transformer tout le monde en construisant de nouvelles villes ?
Les villes s'étendent tous les jours, de nouvelles villes se créent.
Et au lieu de créer des quartiers comme on a l'habitude de créer, c'est plutôt se pencher sur des quartiers écologiques. Et si ce projet il a été abandonné, c'est quand même que le gouvernement des grandes instances de l'État, ils y ont pensé, donc c'est la mentalité qui change et les gens commencent à se tourner vers des quartiers écologiques et non des quartiers comme on construit aujourd'hui.
Moi je trouve ça pas très crédible parce que déjà il n'y a personne, il n'y a jamais des mesures qui sont prises, il y a juste des changements de mentalité, mais c'est juste éphémère, ça dure pas. Tu vois, moi aussi je peux avoir un projet et dire que je vais rendre tout le lycée tout vert, etc., faire planter beaucoup d'arbres et au final dire ouais non j'ai pas les sous. Et je vais pas le faire.
On est dans une société qui n'est ni en décroissance, enfin qui est ni en recherche de décroissance, ni en recherche de qui est pleinement en développement durable. Donc c'est sûr qu'il va falloir évoluer et on n'y est pas. Donc il faudra que les mentalités évoluent pour que ça puisse marcher.
Là, tu parles au futur, il faudra, donc ouais, mais il faut le faire maintenant, parce que là, il n'y a plus de ressources. On est dans une ère qui s'appelle une ère de rareté. Toutes les matières premières, elles commencent à devenir limitées. Elles sont déjà limitées depuis très longtemps, mais là, elles commencent à devenir épuisées.
Vous voulez un break?
Oui.
Du coup, nous aussi, on a un break.
Vous avez droit à un break, du coup.
Du coup, c'est combien de temps il reste? Est-ce
que c'est possible? Il reste 6 minutes.
En fait, après ce break, on a eu des nouvelles informations justes. C'est pas le gouvernement qui a refusé. C'est pas un changement de mentalité du gouvernement. C'est juste des ingénieurs qui devaient construire cette ville. Ils essayent de la refaire chaque année. Le gouvernement essaye de la refaire chaque année. Mais les ingénieurs, ils refusent à chaque fois parce que c'est insoutenable, c'est trop ambitieux. C'est impossible à réaliser. Il y a des calculs qui ont été faits. Une empreinte carbone, normalement, elle est de 1,9, sauf que là, sur cette ville, donc Dongtan, elle était de 2,2. Voilà.
Moi, j'ai une question à te poser, c'est qu'est-ce que tu proposes de concret comme ça? Alors, peut-être que le projet n'a pas marché et qu'il n'a pas pu aboutir, mais au moins, il y a eu une solution qui est peut-être pas possible dans les médias, mais qui est quand même envisageable, qui reste envisageable.
Moi, j'ai 10 conseils, si tu veux, pour la décroissance.
Un tuto.
Déjà, c'est arrêter de prendre l'avion pour des petits trajets.
Oui.
Je ne sais pas si tu connais Ségolène Royal.
Oui.
Tu la connais, c'est quelqu'un qui travaille au gouvernement français. Et donc, elle fait même une leçon de morale, etc., sur les gens qui prennent l'avion pour des trajets inutiles. Et en fait, on a appris juste qu'elle prenait l'avion, un jet privé, pour partir en week-end avec sa famille. Voilà, donc ça c'est le premier conseil.
On pourrait aussi réduire, voire supprimer le poids sur l'environnement de choses qui n'apportent aucune satisfaction. C'est ce qu'il disait, on fait des choses qui ont un impact sur l'environnement qui vraiment ne nous servent pour rien. On le fait pour s'intégrer, pour être conforme à la société dans laquelle on est. Et on pourrait déjà commencer par éviter de faire ça. Et ça nous laisserait, on n'utiliserait pas une partie des ressources que l'on utilise et on pourrait les utiliser pour des choses plus importantes ou les préserver.
C'est pour ça qu'avec le développement durable, on se tourne plutôt vers d'autres ressources, on essaie de trouver des solutions alternatives pour pouvoir contrer le manque de ressources de matières premières et éviter toutes sortes de pollution. Alors que pour moi, la décroissance, ça ne peut pas être... C'est pas la bonne solution, parce que la décroissance, ça signifie quoi? Dire aux gens d'arrêter leurs activités polluantes, mettre un stop, arrêter tout sans trouver de solution alternative, et ça peut causer d'énormes dommages, comme des guerres civiles ou plus encore.
Tu parles de Ségolène Royal comme si c'était l'image du développement durable, et comme si... quand on pensait développement durable, on pensait directement à elle. C'est une personnalité politique française. Elle a fait une erreur. Cette erreur, c'est pas à mettre sur le dos du développement durable non plus. Ensuite, faire des trajets, les trajets courts, arrêter de les faire en avion. Je vois pas. Enfin là, ça ne diminuerait pas, ça ne ralentirait en rien. Ou quasiment pas la croissance, donc c'est une solution envisageable aussi du côté du développement durable.
Donc toi, tu trouves que prendre l'avion, ça fait rien à l'environnement?
Mais ces trajets-là, ils se feront d'une autre manière.
Bah, à vélo, ce serait plus intelligent, mais pour prendre l'avion.
Et ouais, mais à vélo, c'est inenvisageable. Mais les autres moyens de transport participent aussi à l'économie et... Je ne sais pas ce que tu as proposé déjà, parce que beaucoup d'autres moyens de transport polluent. Mais par exemple, si c'est un autre transport en commun comme le train, le train pollue beaucoup moins et participe à l'économie, tout comme l'avion.
Mais moi, surtout, là, ce que je parlais, c'était que déjà, elle donnait une leçon sur ça. Et en plus, l'avion, tu sais bien que ça consomme beaucoup de kérosène, etc.
Oui.
Et ça pollue énormément l'air.
Oui. Mais je te dis juste qu'on n'est pas obligé de prendre l'avion et que je suis d'accord avec toi qu'il faut arrêter de prendre l'avion sur les trajets courts.
Il faut remplacer juste.
Il faut remplacer.
Trouver des solutions. C'est la base du développement durable et d'essayer de changer les mentalités. C'est de trouver des solutions. des solutions alternatives.
Et donc, à partir de là, pour, s'il faut trouver d'autres solutions, c'est là que le progrès technique pourrait intervenir et pourrait nous proposer des alternatives plus intéressantes au niveau écologique et qui participeraient également à l'économie, comme des moyens de transport électriques.
Pour faire ces trajets courts. Pour faire les trajets courts, il y a déjà les bus qui sont mis en place, ou même les tramways dans les villes, mais sauf qu'il n'y en a pas assez. Il y a juste dans les grandes villes de France.
Il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez parce que c'est le dilemme de l'offre et la demande. Si tout le monde, au lieu de faire ses trajets Paris-Marseille, par exemple, en avion, choisissait plutôt de prendre le train ou le bus, il y aurait beaucoup plus de bus qui seraient mis en place pour faire voyager ces personnes-là.
Bah, les gens ils choisissent aussi la facilité. C'est plus rapide.
C'est pour ça que c'est une mentalité à changer. Et peut-être que c'est déjà une marche intéressante à franchir de passer complètement au développement durable plutôt que d'aller de pousser encore plus loin et de risquer des situations compliquées socialement avec la décroissance.
Toi, tu prendrais l'avion pour faire quoi, par exemple, tes trajets que tu m'en parles?
Je prendrais l'avion pour changer de continent, par exemple.
Oui, mais tu vas aller dans ce continent pour faire quoi?
Du tourisme.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Continue.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faudrait peut-être commencer à réduire voire supprimer le poids sur l'environnement des changements qui n'apportent aucune satisfaction, parce que certes, ça te plaît de faire des voyages, mais si on commence à réduire, chacun peut voyager un peu moins et rester plus dans sa région, c'est ce qu'on nous dit dans le document 19 aussi, consommer et agir plus dans le local. On utiliserait moins d'avions et donc on polluerait moins. Et du coup l'avion sert certes à satisfaire nos envies de voyager, de visiter, mais si on le réduit, on pourra améliorer notre mode de vie.
Fin de ce round.
Donc pour faire pour, vous prenez en quelque sorte une économie dite verte. C'est-à-dire que vous voulez développer des emplois verts, changer des modes de production et de consommation et changer le système des valeurs. Certes, c'est un bon point, je trouve que c'est très positif. Sauf que par exemple, on va prendre l'exemple des énergies renouvelables. Vous dites que vous voulez remplacer les énergies non renouvelables par des énergies renouvelables. Et le problème, c'est que...
Excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux redire la phrase? J'ai pas bien entendu.
Vous dites que vous privilégiez des ressources renouvelables aux ressources non renouvelables, ou pas? C'est-à-dire l'électricité, tout ça, ou pas?
Je comprends.
Non, je comprends pas ce que tu veux dire.
Vous êtes pour l'éolienne.
Vous êtes plus pour l'énergie renouvelable ou l'énergie non renouvelable? Ah, pardon. Ah, okay, non, mais réponds juste à la question.
Les énergies qui puissent se renouveler.
Voilà. Et on constate que si on utilise mondialement les énergies renouvelables, ça crée quand même de la pollution et ça ne réduit pas la surconsommation et la surexploitation du capital naturel, par exemple.
Voilà. D'accord. Déjà, je voudrais rebondir en disant que si on augmentait les prix et les taxes, ça diminuerait la surconsommation, comme tu viens de le dire, et que la croissance, ici, ça ne s'apparente pas à empiéter sur l'environnement, puisque la croissance, on l'assimile souvent au phénomène de dire ça voudrait dire augmentation de la marchandise. Or, on observe que dans les pays développés, une croissance de la solidarité non marchande et l'augmentation de services comme la santé, l'éducation et l'assainissement. Et s'il y avait une décroissance, ces phénomènes seraient les premiers qui partiraient. Donc, par exemple, si on faisait la décroissance, il n'y aurait plus de santé. Et donc, peut-être que oui, on consommerait moins, mais il y aurait d'autres phénomènes qui arriveraient, comme des maladies qui pourraient se répandre, par exemple.
Oui, mais la décroissance, on n'est pas forcément obligé de faire décroître la médecine. Mais par exemple, vos énergies renouvelables, nous, on les veut bien, effectivement, mais on veut moins en utiliser aussi. Donc les énergies renouvelables que vous allez pouvoir vouloir créer énormément pour pouvoir faire fonctionner aussi les paquebots, pour pouvoir faire fonctionner aussi les voitures, nous, on veut bien les utiliser, mais juste pour nos trajets dans nos régions, pour rester, pour aller chez le producteur qui va produire ses fruits et légumes qui sont juste dans son jardin derrière la maison, etc.
Surtout que le capital naturel, il est menacé de surexploitation. Et tout ça, ça crée, je suis désolée, mais c'est absolument pas bon pour l'environnement, pour l'écosystème, pour la biodiversité. Il y a des espèces qui sont en voie de disparition. Ça remet en cause toute la chaîne alimentaire. Il y a beaucoup de conséquences sur la surexploitation. Et vous, vos idées ne sont pas contre la surexploitation.
La disparition de la morue au Canada,
par exemple. Je vais rebondir sur une ressource naturelle dont on a tous besoin, la nourriture. Par exemple, pour une vache, elle a besoin de 30 hares. Elle nécessite entre 60 et 120 litres d'eau par jour. Et elle a besoin de manger 40 kg de matière sèche, qui est, je l'accorde, beaucoup. Mais on peut trouver des alternatives. Il y a de la viande de synthèse maintenant, et pour tout ce qui est vegan ou végétarien, vous avez tous les steaks de soja et tous les produits qui ne consomment plus de viande. Et ça consomme énormément moins de terrain, ça consomme énormément moins d'eau que de nourrir une vache.
Ouais.
Donc, et on peut toujours croître, parce que si les mentalités changent, encore une fois, l'éducation, machin, mais si on arrive à faire comprendre que ce n'est plus possible de manger de la viande, et la viande c'est un luxe qui actuellement n'est plus permis, et qui... Enfin, si on fait comprendre qu'on peut juste toujours aussi bien vivre, parce que vous n'allez pas mourir si vous mangez des steaks de soja au lieu de manger de la viande, juste, on peut énormément changer les choses. C'est exactement pareil avec le saumon. Il y a pratiquement plus de saumon qui est pêché naturellement. C'est tout dans des élevages.
Donc, tu veux parler de la synthèse chimique, c'est ça? Plus ou moins.
Enfin, moi, je parlais, oui, de la viande de synthèse ou des steaks de soja.
On peut donc parler de synthèse chimique. C'est très proche. Donc, je vais juste reprendre une loi de physique chimie. Donc, rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, pour faire de la synthèse, il faut du pétrole. Je précise que c'est de Descartes. Donc, c'est de nos jours, vous voulez qu'on crée des choses, tout ça, on ne crée pas, on transforme. Donc, à la base, il faut quand même des ressources qui, elles, ne sont pas renouvelables puisqu'il s'agit de pétrole.
Mais il faut savoir que la synthèse chimique, elle coûte déjà moins cher que l'extraction de produits naturels et que les produits des espèces originales qui sont utilisés pour satisfaire donc, la demande des clients. Et elle n'épuise pas les ressources naturelles. Elle est créée avec des produits nouveaux et elle va permettre le progrès, par exemple, au niveau de la santé, avec, par exemple, la création de nouveaux antibiotiques. Et qu'il y a aussi l'utilisation de pesticides qui ont permis de résoudre de nombreux problèmes de famine, par exemple.
Excuse-moi, mais la création de synthèses chimiques, elles se font où? Imaginons que ça se passe dans des usines. Mm-hmm. L'usine, elle fait quoi? Elle consomme, elle surconsomme et elle pollue. Et la pollution, nous, on prend tout ce qui est décroissance, d'accord, mais on veut que l'être humain arrive à vivre longtemps sur cette planète et on ne cherche pas une alternative à court terme, mais à long terme. Et pour moi, le long terme, la solution au long terme, c'est la décroissance. On ne peut pas changer le monde avec des si petites.
Tu viens de répéter de nouveau qu'on pourrait créer grâce à la synthèse chimique, et je répète une nouvelle fois qu'on ne crée pas, on utilise le pétrole, donc c'est quand même une ressource qui est non renouvelable à notre échelle.
La synthèse chimique, par contre, c'est prouvé que ça pollue quand même beaucoup moins que d'utiliser des ressources naturelles. Et de toute façon, il faut quand même trouver une alternative, puisque comme vous le savez, les ressources naturelles que la planète peut nous donner, on les a écoulées en juillet. Je voulais rebondir sur autre chose, parce que avant que vous ayez quelque chose à dire sur la synthèse, mais en 1975, il y avait 2400 tonnes de CO2 qui étaient relâchées dans l'atmosphère pour produire 1 million de dollars de richesse en Chine. En 2010, il s'agissait de 800 tonnes. Donc, grâce au capital public et peut-être au capital humain, on a réussi à réduire la consommation qui est relâchée dans l'atmosphère.
Mais certes, c'est un fait, mais ça ne suffit pas. Tu vois bien qu'il y a le réchauffement climatique, qu'il y a la déforestation, qu'il y a les tempêtes, les tsunamis, la montée des eaux. Tout ça, c'est à cause de ce CO2 quand même. Et même s'il y a une diminution, ça ne marche pas. Même s'il y a, et en plus, c'est une légère diminution. Par rapport
à la diminution
de 800
à 2400. Ben oui, mais en soi.
Du coup, tu viens de dire le CO2. etc. Mmh. Donc le CO2, il est transformé par les arbres, effectivement, en air qu'on va pouvoir utiliser. Donc il y avait des chiffres dans les documents entre 1890 et 1990, effectivement, ça a baissé de 20% la superficie des forêts. Donc voilà. Et je voulais juste préciser que si on prend des chiffres un peu plus récents, parce que ça commence à dater, entre 1990 et 2015, d'après l'ONU, il y a le taux de perte nette de forêt a chuté de plus de 50%. Donc 50%, donc en 25 ans, ça fait 120 millions d'hectares. Donc peut-être vous voulez savoir ce que ça représente, l'Afrique du Sud entièrement. Si l'Afrique du Sud était entièrement recouverte d'arbres, il n'y avait plus d'Afrique du Sud.
Et surtout que le CO2, je crois bien que les arbres, ils peuvent l'absorber. Avec la déforestation, là, par exemple, le poumon de la terre, l'Amazonie, enfin la forêt amazonienne, elle est elle a beaucoup été exploitée et il n'y a plus d'arbres et donc elle absorbe moins de CO2, ce qui provoque encore plus de pollution.
Ça montre que le capital nature n'est pas remplaçable.
Comme vous le savez peut-être, la croissance économique, elle est nuisible jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'on consomme, on consomme, on pollue, et à un moment donné, où comme on devient riche, on vient développer le progrès technique, le développement humain. Le développement humain, je ne sais pas si la définition quelque part, c'est la satisfaction des besoins vitaux, mais aussi la liberté politique et la réduction des inégalités. Donc quand on arrive à ce stade, on est capable de réduire notre consommation et de mieux la gérer. Donc l'objectif, ce serait justement de faire des objectifs ou de passer des lois, ou de faire des blocages économiques envers les pays qui ne les respectent pas, c'est-à-dire de refuser de commercer avec un pays qui ne respecte pas les limites qu'on fixerait.
Non, on a atteint cet objectif
Ça dépend du pays, évidemment. Dans les pays en développement, non.
Je voulais rajouter, bon, ça c'était déjà le sujet du premier débat où j'avais parlé du paradoxe d'Easterlin, etc. On ne va pas y retourner dessus, ce serait un peu fermer le débat. On pourrait parler d'autres sujets. Donc moi je peux en parler si vous voulez, l'accord de Paris sur le climat,
oui.
Donc la COP21, ça date de 2015, c'est très très récent. Honnêtement, personne ne l'a réellement respecté pour l'instant, l'Europe un petit peu. Ça a même permis que les États-Unis arrêtent de participer aux COP. Donc
on l'a déjà dit dans le précédent débat, de même que pour le bilan carbone, il faut juste que ça devienne une obligation. Parce que là, on leur a laissé le choix, ils sont partis, personne ne leur a rien dit. Du moment qu'on fixe des lois et que c'est obligé, enfin, il y aura pas de problème à ce qu'ils respectent leurs engagements, puisqu'ils y seront obligés et tenus de les respecter.
Fin du débat.